Radio Kapi.
Tout de suite, en ouverture de ce journal, le point sur la situation qui a prévalu à l'aéroport de Bangoka et Kisangani. Après avoir tout arrêté pendant plusieurs heures à cause du non-paiement des 12 mois de salaire, les agents de la RVA ont repris du travail et ainsi permettre aux voyageurs de se déplacer. À suivre également dans ce journal, Béni, avec les efforts des forces de sécurité pour anéantir les méfaits des terroristes qui écument la région. Le porte-parole des FRDC à Béni revient dans cette édition sur l'arrestation des deux présumés poseurs de la bombe hier à Oicha. Béni Okito, secrétaire général au sport et rapporteur adjoint du Comité national d'organisation des Jeux de la Francophonie, s'entretient en fin de cette édition avec Enoch Matondo sur les préparatifs de ces Jeux ici en RDC. Auditeurs de Radio Okapi, merci de continuer à nous faire confiance pour votre information. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Sachez tout d'abord que le chef de l'État poursuit sa mission dans la province du Sankuru. L'agenda du Félix-Antoine Tshisekedi prévoit une visite ce jeudi dans le groupement des Zewango, précisément à Onoloa, le village où naquit le héros national Patrice Emery Lumumba. C'est pour y installer les autorités administratives nommées récemment par ordonnance présidentielle. Quelques responsables des confessions religieuses, acteurs politiques ainsi que ceux de la société civile ressortissant du Sankuru ont fait le déplacement vers Onoloa pour accompagner le chef de l'État. C'est depuis hier soir que Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à Tshumbe après quelques heures passées à Lodja. Sur place à Tshumbe, Félix-Antoine Tshisekedi a visité l'université Notre-Dame de Tshumbe ainsi que l'hôpital général de référence. Le chef de l'État a accordé quelques audiences cet avant-midi à Mgr Nicolas Djomo, l'évêque du diocèse de Tshumbe, à l'évêque de la 28e communauté méthodiste unie, Mgr Daniel Lungé, à l'administrateur du territoire et ainsi que quelques membres du parti UDPS. L'évêque du diocèse de Tshumbe donne quelques grandes lignes autour de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État. Mgr Nicolas Djomo a été joint au téléphone par Esther Dalafina.
J'ai échangé avec le chef de l'État sur deux points. Le premier, c'était pour le remercier d'avoir planifié de venir visiter le village d'Antal, via l'attaque de Patrice Emery Lumumba. Je le remercie d'avoir programmé la visite de toute la province. Donc, en tant que pasteur de cette partie de la province, j'ai eu à le remercier d'une manière tout à fait particulière. Et deuxième point, c'était pour échanger sur les problèmes qui touchent notre province. C'est vrai que le Sankuru est très enclavé. On souffre beaucoup. Il y a des problèmes d'infrastructures, pas de bonnes routes, il n'y a pas une piste d'aviation convenable. Les cours d'eau ne sont pas toujours bien drainés. Donc, cela handicape le développement de la province. Et ces questions essentielles liées à l'enclavement ont été reprises par la population à Lodja et dans les différents niveaux. Il a répondu disant que effectivement il a un grand projet concernant le développement de 145 territoires. Et c'est dans ce projet qu'il entrevoit le démarrage du fonctionnement des différentes provinces, l'amélioration de l'infrastructure. C'est dans le cadre de ce projet, il m'a dit qu'il voulait répondre à toutes les attentes et les demandes de cette population. Oui.
Les voyageurs à l'aéroport de Bangoka dans la province de la Tshopo ont poussé un ouf de soulagement après plusieurs heures d'incertitude. Les passagers en attente des voyages ont finalement quitté Kisangani pour leurs diverses destinations. C'est notamment Goma et Kinshasa. Les agents de la RVA qui ont manifesté cet avant-midi et bloqué l'enregistrement des passagers pour leur embarquement sont revenus au bon sentiment. Ils ont donc repris le service interrompu, permettant ainsi aux passagers d'entreprendre leur voyage par voie aérienne. Jacques Moukonkole.
L'arrêt de service des agents de la RVA est consécutif au non-paiement des 12 mois d'arriérés de salaire, selon le délégué syndical de la RVA. Jean-Claude Mouchaba a fait savoir que la créance des Congo Airways est de 60 000 $ pour le mois de décembre. En outre, cette compagnie accuse des arriérés de l'ordre de 564 000 $ américains. Voilà qui justifie leur grogne. Ce litige a-t-il été réglé? Selon Jean-Claude Mouchaba, hormis l'intervention des autorités politico-militaires, Congo Airways s'est acquitté partiellement de sa dette du mois de décembre, tout en promettant de verser les soldes au plus tard, en mi-janvier en cours.
Homme a déjà payé les 11 000 et il accepte d'ici le 15 d'absorber les 60 000. C'est pour cela que les agents ont accepté d'attendre la date butoir du 15. Du 15, ça sera un samedi, mais le 17, nous allons observer si les relevés bancaires nous arrivent, s'il a déjà payé toute la totalité de la dette.
faute d'honorer cet engagement, les agents de la RVA se réservent le droit de reprendre leur mouvement, souligne Jean-Claude Mouchaba, délégué syndical de la RVA Kisangani. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
29 personnes ont été tuées dans 190 accidents de la route enregistrés en 2021 par la police des circulations routières de la ville de Beni. Un chiffre élevé que déplore la police. Pour limiter le nombre des morts sur les routes de la ville, la PCR a lancé aujourd'hui des séries de séances de recyclage obligatoires pour les conducteurs des véhicules et motos. Écoutez à ce sujet le commissaire supérieur Célestin Lembi, commandant urbain de la police de circulation routière au micro de Guylaine Kassassia.
Nous avons fini l'année dernière vraiment dans de très mauvaises conditions, d'autant plus que le nombre des accidents se sont accrus. On avait atteint 190 cas d'accidents, ce qui était trop par rapport à l'année 2020. On avait comptabilisé 105 cas d'accidents. Vous verrez que le nombre d'accidents par rapport à l'année 2020 a doublé et qui a entamé 29 personnes qui sont décédées conséquemment de ces accidents. Ce qui n'est pas bon par rapport à nous qui suivons les sécurités routières. Puisque nous avions passé un bon moment sans pour autant être en face de nos usagers de la route. Et ce qui nous avait empêché, c'est la maladie de la COVID-19. La hiérarchie nous a autorisé que cette année, nous allons faire un recyclage obligatoire de tous les conducteurs des engins roulants. C'est cette méthode qui va nous soulager, d'autant plus que lorsque tous ces conducteurs seront en mesure d'être formés, nous allons parler le même langage et les accidents de la circulation routière vont diminuer et que les gens vont aussi conduire avec toute sécurité et toute sérénité sur la voie publique.
Dans la province du Maniema, il s'observe depuis ce jeudi matin une carence des carburants sur toute l'étendue de la ville. Un litre d'essence qui se vendait à 3000 francs congolais il y a peu s'achète actuellement à 5000 francs congolais à la pompe et 5500 francs congolais chez les revendeurs appelés Kadhafi. Cette situation perturbe la circulation et le travail surtout des motocyclistes selon leurs témoignages. Sur place, retrouvons Florence Kizalunga dans ce reportage.
Dans notre ronde, nous avons trouvé que cette carence pénalise la population qui ne sait plus prendre les taxis. Témoignage.
Moi, je vous dis, madame, ça devient compliqué ici. Même si vous voulez arriver quelque part où il n'y a pas tellement de la distance, on vous demande 1000 francs, 1500. Vous allez trouver une masse de gens en cours de route. C'est comme si nous sommes en train de faire des marches et le gouvernement quand même cherche à intervenir dans ces choses-là.
Les motards de leur côté dénoncent. Fabrice Kassongo est l'un d'eux.
Vraiment, il y a une hausse du prix. On achetait un litre à 2800. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à 5000 francs. On ne sait pas comment faire. Les gens ne montent pas les taxis, mais nous sommes devenus maintenant vraiment les chômeurs. Oui, nous avons aussi haussé les prix parce que vous achetez un litre à 5000 francs, mais si vous transportez une personne à 500 francs, alors vous allez tomber en faillite.
Les conseillers provinciaux de la FEC en charge des hydrocarbures justifient cette situation par la rupture des stocks dans la ville. Babou Nazareth.
Nous approvisionnons à partir de Kisangani et à Kisangani, comme je vous parle, actuellement, il n'y a pas de stock. Nous attendons les stocks, le bateau va arriver d'ici le 15 ou le 17 du mois en cours et c'est à partir de là qu'on va s'approvisionner en quantité suffisante et au bon prix. Mais aujourd'hui là, nous débrions ça et là, qui des Kassongo, qui des Samba, qui des Congolo, par des bidons dans des voies qui ne sont pas légales.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Deux personnes accusées d'être les poseurs de l'engin qui a explosé hier dans un marché d'Oïtcha ont été arrêtées. Elles seraient actuellement interrogées par les services de renseignement. Selon le porte-parole de l'armée à Beni, l'explosion de cet engin a fait deux blessés. Le capitaine Anthony Mwalushai assure que des dispositions ont été prises pour assurer la sécurité des habitants de cette région. Il est joint au téléphone par Guylaine Kassassia.
D'abord, il y a eu deux blessés qu'on a amenés d'urgence à l'hôpital. Une dame et un monsieur qui étaient blessés légèrement. Après les enquêtes, on a interpellé deux poseurs de bombes qui sont en train d'être exploités au niveau de notre atelier de renseignement. Et voilà, et on a récupéré la bombe en question, et puis les spécialistes en matière sont en train de mener avec plus de détails pour en savoir plus sur l'origine et surtout pour les matières qui ont aidé à fabriquer cette bombe artisanale. Mais sur le plan militaire, on a renforcé encore des dispositifs sécuritaires sur les lieux pour que qu'on sécurise encore la population et puis qu'on soit vigilant ensemble avec la population pour alerter et puis démasquer ces poseurs de bombes. Les personnes qu'on a arrêtées sont au nombre de deux.
Pour rappel, le soir de Noël, une bombe artisanale avait explosé dans un bar de la ville de Beni, faisant 8 morts et une vingtaine de blessés. En Ituri, deux professeurs d'université membres de la communauté Bira sont aux arrêts depuis mercredi à l'auditorat supérieur près la cour militaire de l'Ituri. Selon cette juridiction, ils sont accusés d'être de connivence avec le groupe armé Force Patriotique et Intégrationniste du Congo FPIC. Le président de la communauté Bira qualifie cette arrestation de pure machination qui vise à saper les efforts du gouvernement pour la pacification de l'Ituri, comme le dit Isaac Kremoyope.
Le professeur Bungi Shabako Kato de l'université Shalom de Bougne et le professeur Dudanga Kavarios, recteur de l'université d'Issé-Promad, ont été interpellés mercredi à l'auditorat supérieur près la cour militaire de l'Ituri. Ils ont été dénoncés par un suspect arrêté par cette juridiction, affirme le président de la communauté Bira. Dieudonné Nobira fustige l'arrestation de ces deux leaders communautaires qu'il qualifie de montage pour discréditer ces grandes personnalités de la province. Il ajoute que ces deux professeurs sont souvent sollicités par le gouvernement pour la recherche de la paix en territoire d'Irumu, notamment la sensibilisation des miliciens de la FPIC à déposer les armes. Il plaide pour leur libération pour la promotion de la paix en Ituri.
Nous, communauté, nous sommes vraiment choqués. Nous avons un montage tout fait, mais tous les deux leaders-là, ils participent à toutes les racontes où on est en train de profiler des stratégies pour comment on arrive à convaincre les enfants égarés à revenir au bon sentiment. Nous exigeons la libération de ces deux leaders.
Nous n'avons pas encore la réaction de l'auditeur supérieur près la cour militaire de l'Ituri où leur dossier est en instruction. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
La RDC a enregistré 801 violations et atteintes aux droits de l'homme, soit une forte augmentation de 61% par rapport au mois de novembre avec 498 violations. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui les a documentées note une hausse du nombre d'atteintes attribuables à des groupes armés ainsi que des violations attribuables à des agents de l'État entendant les forces de sécurité. Les détails sur les différentes tendances de ce rapport avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Dans son rapport, le Bureau conjoint affirme que le nombre d'atteintes aux droits de l'homme, soit 61% attribuables aux Nyatura, aux ADF, FDLR dans le Nord Kivu et la Co-Eco en Ituri, ce nombre donc a plus que doublé, tandis que les agents de l'État, c'est-à-dire les FRDC, la police et l'ANR, sont responsables des 39% des violations documentées dans les exécutions extrajudiciaires d'au moins 40 personnes. Autre détail, environ 94% des violations documentées pendant cette période ont été commises dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika. De toutes les parties en conflit, les militaires des FRDC ont commis le plus grand nombre de violations, tandis que parmi les groupes armés, ce sont des combattants Nyatura qui ont commis le plus grand nombre des atteintes documentées. Au cours du même mois de novembre, des cas de violences sexuelles liées au conflit concernent 70 victimes adultes du sexe féminin. Le bureau conjoint a également documenté 40 violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lien avec l'espace démocratique.
Situation du coronavirus à travers le pays. Au Nord Kivu, les nouveaux cas confirmés de COVID-19 ne cessent d'augmenter dans la ville de Butembo. Cependant, la majorité des habitants restent indifférentes quant au respect des gestes barrières et la vaccination. Sadiki Aboubakar nous en fait le point.
La courbe des contaminations est ascendante dans la ville depuis la dernière semaine de l'année 2021. Dans la semaine du 20 au 26 décembre dernier, la ville n'avait notifié que 10 cas de COVID-19. La semaine suivante, soit celle allant du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022, les deux zones de santé de la ville de Butembo ont enregistré un total de 86 cas de coronavirus, une situation qui inquiète les autorités sanitaires qui appellent au strict respect des gestes barrières et à la vaccination en vue de limiter les contaminations. Cependant, sur terrain, c'est une indifférence totale. Il est rare de rencontrer quelqu'un qui porte correctement son cache-nez sur le boulevard et dans des milieux publics tels que le marché. Les points de lavage des mains sont quasi inexistants, sauf au niveau des banques et quelques formations sanitaires qui en tiennent rigueur. Dans un point de presse tenu lundi dernier, Damoulou Luavo, communicateur de l'administration sanitaire dans le Grand Nord Kivu, avait déploré le manque d'engouement surtout des femmes dans des sites de vaccination contre la COVID-19. Butembo, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des expatriés marocains, Nasser Bourita, et le vice-président de la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine, Ning Jize, ont signé mercredi le plan de mise en œuvre conjoint de nouvelles routes de la soie. Cette convention vise à favoriser l'accès au financement chinois prévu par l'initiative afin de réaliser notamment des grands projets au Maroc et de faciliter les échanges commerciaux. Au terme de cet accord, Pékin s'engage à encourager les entreprises chinoises à investir au Maroc. Des dizaines de Soudanais dans la rue réclamaient le retour du pouvoir aux civils depuis que le premier ministre Abdallah Hamdok a démissionné le 2 janvier dernier. Ce jeudi, ces rassemblements étaient visibles dans la capitale Khartoum. Les manifestants ont tenté de se rapprocher du palais présidentiel et du quartier général de l'armée avant d'être repoussés par les tirs de gaz lacrymogène. Depuis quelques semaines, les militants pro-démocratie qui avaient participé au soulèvement populaire contre l'ancien président Omar el-Béchir multiplient les appels à la révolte contre le pouvoir militaire du général Al-Burhan. L'invité de ce journal est le secrétaire général au sport et rapporteur adjoint du Comité national d'organisation des Jeux de la Francophonie. Il fait le point sur l'évolution des travaux de construction des infrastructures qui doivent accueillir ces Jeux et fixe l'opinion sur la gestion des fonds alloués aux dix travaux. Barthélémy Okito s'entretient avec Enoch Matondo.
Bonjour, c'est Okito.
Bonjour.
Le matériel arrive quand?
En résumé, je vais vous dire que, à ce qui concerne le jeu de la francophonie, moi j'étais au conseil des jeux. Le mécanisme qu'on a trouvé, ici il faut féliciter le ministre d'État Guizarro, des ITPR, qui a en fait sauvé les jeux. En fait, on a pris de mettre en place, au lieu de construire tel que nous l'avions prévu au départ, on a décidé tous les villages de jeux avec tous les bureaux, accréditation, services généraux, etc., seront construits en préfabriqué. Déjà, on est en train de faire ce travail à l'extérieur du pays. Il y a eu un financement. Fin janvier, et à la fin des travaux, faut prendre 2 mois. Prenons 2 mois. Disons qu'au plus tard, mars, tous les matériels devront être ici, ou même début avril. Le montage prend 2 mois. Donc, disons qu'au plus tard juin, ou à la rigueur fin 15 juillet, on aura déjà le village de jeu au stade Atarafaïl. Ça, c'est au niveau de préfabriqué. Pour les autres, en ce qui concerne les gymnases, le hall qui vont servir le judo et le tennis de table, là, il y a eu un avenant au niveau des contrats. Donc, les entrepreneurs sont allés signer des nouveaux contrats. Au moment où je vous parle, on m'a dit déjà qu'il y a la non-objection de la Direction Générale de Marché, c'est-à-dire qui autorise, en fait. Et j'apprends aussi que au niveau de finances, il y a entre 50 et 52 millions qui vont être débloqués rapidement pour qu'on puisse construire la base, c'est-à-dire que et même le gymnase, les deux gymnases de Stade de Matir aura comme toit, le toit métallique, qui est déjà, qu'on a déjà commencé à fabriquer. Et même le deux halls au stade de Tarafael, judo, etc., toit métallique. Et d'ici 4-5 mois, on va construire le mur, la fondation et tout ça. Et il faut prendre 2 ou 3 mois pour que cette toile métallique arrive. L'enjeu, c'est le 15 juillet. Tout devra être en place pour l'organisation de ce jeu.
On parle de la dilapidation des fonds. Il y a certains contrats signés qui n'ont pas respecté la procédure normale et des contrats avec certaines entreprises sont même résiliés. Est-ce que vous confirmez ça?
Il y a trop de rumeurs qui circulent. D'abord, je commence par les hauts représentants du GTO. Les hauts représentants du GTO n'a reçu. On a versé seulement 2 fois l'argent pour payer les agents. Il n'a pas reçu de l'argent de fonctionnement comme ça. Il a reçu l'argent pour les salaires. D'ailleurs, ils sont en retard, les gens de la Direction nationale des jeux. Je crois qu'ils sont en retard de 4 ou 5 mois, tu es au courant. Il peut pas détourner l'argent qu'il n'a pas eu. Vous comprenez? Ça, c'est un. De deux. Effectivement, quand il y avait des doutes à ce qui concerne le montant déclaré au niveau des entreprises. Au niveau des ITPR, on a mis en place une commission mixte. Cette commission on a utilisé ce qu'on appelle le bureau technique, BTC. Le bureau technique a repris à zéro le contrôle de chaque projet avec des textes réglementaires. C'est vrai, le montant de départ, c'était 218 millions. Mais avec le BTC 1 et avec la réglementation, on est tombé à plus ou moins 150 millions parce que si on enlève le TVA, on va tomber à 150 millions. Donc, personne n'a détourné l'argent parce qu'on n'a jamais versé de l'argent. Ça sera la première fois qu'on va verser de l'argent. Il est vrai qu'avec l'ancien comité de pilotage, ils avaient versé 941 000 dollars. Bon, cet argent, le comité international demande toujours les justifications. Tchouyou est arrivé. Tchouyou n'a pas eu l'argent. Tchouyou a réceptionné seulement deux montants qu'on a versés à la banque il a payé dans les comptes. Ben, il est resté avec des dettes, des loyers, de beaucoup de dettes là-bas.
Merci beaucoup, M. le secrétaire général.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal préparée par Élisée Chikota, Alain Hirung et l'ensemble de la rédaction. Billy Yvan Lutumba était devant ce micro pour la présentation. Merci pour votre sympathique attention.